Lizzie présente Le loup des cordeliers de Henri Lovenbruck, lu par Benoît Rivillon. Avertissement. Ce livre est un roman. L'auteur, toutefois, s'est attaché à rendre le plus fidèlement possible la réalité historique de la Révolution française. Dans l'intérêt du récit, quelques libertés ont été prises, notamment en romançant la vie de certains personnages, et en particulier celle d'Anne-Joseph Théroigne, dont l'entrée dans la Révolution a été plus tardive qu'il ne l'est ici raconté. Quant à Charles-Antoine Duvillier, s'il est en partie inspiré du colonel Dumouriez, c'est un personnage fictif. L'audiolecteur, nous l'espérons, pardonnera ces quelques licences qui ont été prises au seul bénéfice de son divertissement. Prologue. Il s'étendait à Paris, en l'an 1789, entre la Sorbonne et l'abbaye de Port-Royal, une voie longue de 300 pieds, traversant le quartier dit des Cordeliers et que l'on appelait rue d'Enfer. L'origine de ce nom a fait jusqu'à nos jours l'objet de ces interminables disputes dont les historiens ont le secret. Les uns affirmant qu'il était une déformation de Via Inferior, son ancienne appellation supposée. Les autres qu'il venait du sobriquet donné à la porte de l'enceinte de Philippe Auguste, à laquelle la dite rue conduisait, la Porte en Fer. En somme, nos savants ne s'entendent que sur un seul point. N'en déplaise aux suppôts de Satan, la rue ne devait pas son nom à quelque lien que ce fût avec le feu éternel des enfers, et l'on n'y voyait guère plus de diables que de revenants. Pourtant, quand la jeune femme s'engouffra, en ce soir de mai 1789, dans cette rue d'enfer, ce qui l'attendait ressemblait à s'y méprendre à la terreur des abîmes. Claudine Fauche, que son nouvel entourage avait malicieusement surnommée Fauchette, était montée un an plus tôt à la capitale, où elle était entrée comme femme de chambre au service de Madame Marais, épouse d'un bourgeois qui s'était enrichi par la finance, jouissait de 500 000 livres de rente et occupait une maison cossue près de l'abbaye de Saint-Germain. On dénombrait dans l'hôtel des Marais une douzaine de domestiques, sans compter les marmitons, les aides de cuisine et les trois femmes de chambre de Madame, dont Claudine était la plus jeune, la plus inexpérimentée, mais aussi la plus dévouée. Paris frémissait alors au vent d'une révolte grandissante. Depuis les émeutes du faubourg Saint-Antoine, la ville bouillonnait. Ici, on riait, on buvait, on célébrait le parfum d'une liberté promise. Mais plus loin, on se battait, on pillait. Chaque jour, on conduisait la capitale un peu plus vers une inéluctable tempête. Ainsi, Fauchette aurait préféré, à une heure si tardive, ne point se trouver seule dans les rues sombres de Paris. Seulement Madame, qui savait jouer du désir de lui plaire qu'éprouvait sa diligente femme de chambre, l'avait envoyée en mission secrète, la faisant sortir au cœur de la nuit par la porte de service pour aller récupérer chez un colonel le collier en or émaillé qu'elle y avait oublié. Si Fauchette ne rapportait pas à Madame le bijou avant l'aube, Monsieur Marais risquait de s'étonner de ne pas voir la parure au cou de son épouse lors du déjeuner qu'ils avaient chez le fermier général. Et alors l'adultère menaçait d'être mis au jour. Et avec lui, peut-être un ou deux antécédents. La femme de chambre, aussi bon cœur, n'avait supporté le moindre jugement à l'encontre de sa maîtresse et s'était empressée de braver les dangers de la nuit pour la prévenir d'une funeste humiliation. Après tout, pensait Fauchette, comment blâmer cette femme, issue d'une noblesse appauvrie, riche d'une syllabe seulement, et qui n'avait épousé un financier que pour assurer à sa descendance une rente salvatrice? C'était alors chose courante que de voir un riche bourgeois demander la main d'une fille de qualité. Souvent, la jeune épouse obligée se lamentait et s'ennuyait auprès du mari bedonnant, suppliait les portraits de ses ancêtres de fermer les yeux sur cette mésalliance, et allait secrètement chercher du réconfort dans les bras plus virils d'un glorieux homme d'épée. Ainsi, il fallait voir notre zélée Fauchette remonter, tremblotante, la sombre rue d'enfer. Ses pas claquant sur le pavé, son visage enfoui sous une capuche de feutrine, et longeait les murs du couvent des Chartreux en tenant le précieux bijou pressé contre sa poitrine pour le rapporter à madame. On trouvait en ce temps dans Paris à peine plus de 1000 réverbères à huile, qui éclairaient bien mieux que les anciennes lanternes à chandelles de suif, mais ne suffisaient pas à rendre la ville assez lumineuse aux heures où le soleil ne la frappait plus. Or, dans cette rue d'enfer, les rares réverbères avaient été brisés quelques jours plus tôt par des malfrats, comme ceux-ci le faisaient souvent pour plonger la capitale dans les ténèbres, dont leurs méfaits nocturnes avaient besoin. Aussi Fauchette était-elle là, qui marchait, vive et inquiète, dans l'obscure clarté de la lune, quand soudain, sa course fut interrompue par l'apparition de deux brigands, qui semblaient sortis de nulle part. Saisie de terreur, la jeune femme ne trouva point le souffle pour crier et ne pensa qu'à une seule chose, protéger le collier de madame, qu'elle serra au creux de ses paumes. L'attrapant par l'épaule d'une main et lui bâillonnant la bouche de l'autre, l'un des deux aigrefins l'obligea à reculer jusque dans une petite allée qui menait au jardin du palais du Luxembourg. Ce jardin, parsemé jadis de si belles plantations, était désormais en grande partie à l'abandon. La nature, plus rebelle que l'homme encore, y avait repris ses droits et, en dehors de quelques amoureux qui venaient s'enlacer sur la promenade des soupirs, on ne trouvait là que bandits et malandrins, de ce genre d'hommes auxquels, justement, appartenaient les deux agresseurs de notre épeurée Fauchette.
« Qu'est-ce que c'est que tu caches là entre tes mains, mon hirondelle ?»
fit le premier en essayant de lui faire ouvrir les doigts. Fauchette résista si fort et se démena si fougueusement qu'elle finit par tomber à la renverse au milieu des bosquets. Aussitôt, les deux gredins hilares se jetèrent sur leur proie et la maintinrent au sol, alors que dans leurs yeux brillait une lueur qui ne laissait guère présager la moindre issue heureuse à cette aventure. Pendant que l'un lui agrippait les épaules, l'autre vint se poser à califourchon sur ses fines jambes, et comme Fauchette se débattait, il la gifla, sans se départir d'un libidineux sourire. La femme de chambre ferma les poings plus fort encore, et dans son esprit s'élabora une atroce résignation. Qu'on lui vole sa candeur s'il le fallait. Mais le collier de madame, elle ne le céderait pour rien au monde. Dût-elle en mourir ?
Allez, laisse-toi faire la soubrette, merde alors ! Mais c'est qu'elle a une belle place d'armes, s'écria son tortionnaire,
qui s'était mis à pétrir des deux mains la généreuse poitrine de Fauchette.
Parbleu, mais c'est bien vrai ça, la petite coureuse,
renchérit l'autre en constatant la chose par lui-même. Et sa mouniche, tu crois qu'elle est comment, sa mouniche ?
Eh, mets-lui la main sous la robe pour voir un peu.
Arrêtez, laissez-moi, supplia la jeune femme qui bataillait encore, incapable de repousser les assauts de la vile canaille. Et alors, malgré elle, elle laissa tomber le collier en or émaillé de madame. L'homme qui dominait la pauvre enfant glissa le bijou dans sa chemise. Loin de se contenter de cette prise substantielle, il était en train d'arracher les choses de Fauchette, la main glissée sous son jupon, quand soudain, un grognement sourd retentit derrière lui, qui résonna à travers tous les jardins, jusqu'au palais du Luxembourg lui-même. La lune projeta une ombre menaçante sur l'allée de terre, et en découvrant le visage terrifié de son complice, mais aussi de Fauchette, l'homme qui était sur le point de dérober à la jeune femme une virginité qu'elle avait jusqu'ici fièrement conservée, se retourna pour voir ce qui se passait dans son dos. Le spectacle qu'il découvrit lui procura sur le champ une frayeur plus immense encore que celle qu'il venait d'inspirer à sa victime. Car c'était bien là une fantasmagorique et épouvantable apparition. Dans la pénombre bleutée, une silhouette majestueuse se découpait sur les rayons de l'astre nocturne, portant une longue cape noire dont la capuche ne laissait pas même apparaître la lueur d'un regard. D'une main, telle une statue équestre, ce spectre crépusculaire brandissait un sabre d'infanterie, parcouru d'éclats lumineux. De l'autre, il tenait une laisse. Et au bout de cette laisse, tendu à s'en rompre, un loup. Un grand loup gris aux yeux flamboyants d'ambre. L'animal, les babines retroussées et gluantes de bave, montra des crocs acérés à travers lesquels sourdait ce redoutable grondement.
Qu'est-ce que balbutia le brigand. Mais il ne put terminer sa phrase,
car sans maudire, le fantôme lâcha sur lui son sauvage animal.